Et sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. La mer monte et elle va continuer de monter avec le réchauffement climatique. 280 millions de personnes déplacées dans le scénario le plus optimiste. L'un des chiffres alarmistes du prochain rapport des experts du climat du GIEC. Permafrost fondu, baisse continue des réserves de poissons, manque d'eau douce. On décortique le document qui n'est pas encore définitif dès le début du journal. Au sommaire également ce soir, Claude Guéant et Patrick Buisson, notamment renvoyés en correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Élysée. La pierre, de plus en plus chère à Paris, la barre des 10 000 euros le mètre carré en moyenne vient d'être franchie. Matteo Salvini en chef de file de l'opposition italienne face à la nouvelle coalition 5 étoiles Parti démocrate. Nous serons à Turin. La mort de Michel Aumont, comédien discret et élégant au cinéma et au théâtre. Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions sur fond de transfert Neymar peut-être au Barça. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, la guerre des plateformes. Netflix vit peut-être sa dernière année de tranquillité. Disney arrive, Apple aussi, concurrence acharnée donc des plateformes. Mais est-ce que nous, les amateurs de séries et de cinéma, on va s'y retrouver? Est-ce qu'on va devoir jongler, sacrifier les abonnements? Qu'est-ce que ça change aussi pour la vraie télé, celle qui essaye de tenir le coup? On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Avait-on besoin d'un rapport de plus pour nous alerter sur les conséquences du réchauffement climatique? Sans doute pas, mais celui-ci est un pavé et il est le premier consacré aux océans. Une synthèse de travaux scientifiques en 900 pages, déjà considérée comme une référence. Rapport spécial du GIEC, les experts du climat de l'ONU, le quatrième en moins d'un an, qui nous dit que le réchauffement va avoir des conséquences dramatiques sur les océans et sur la cryosphère, c'est-à-dire la banquise, les glaciers, les calottes et autres permafrost. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Par quel mécanisme va-t-on vers ce scénario catastrophe?
Eh bien d'abord, les océans, parce qu'ils couvrent les deux tiers de notre planète, ont un rôle majeur dans la régulation du climat. Sachez qu'ils abritent entre 50 et 80% de la biodiversité, qu'ils fournissent la moitié de l'oxygène que nous respirons et qu'ils absorbent 30% du carbone que les hommes produisent par leur activité sur Terre. Entre les eaux océaniques et l'atmosphère, c'est en fait un échange permanent. Si l'atmosphère se réchauffe, l'océan va lui aussi voir sa température grimper légèrement. Et un océan plus chaud, c'est un océan qui se dilate, qui grossit, donc le niveau des mers monte. Si en plus il est alimenté par la fonte des calottes glaciaires et celle des glaciers, et selon le rapport, ils auront perdu 80% de leur volume d'ici la fin du siècle, alors mécaniquement cela renforce cette montée des eaux. 29%, 29 cm de plus par ici, 59 de plus par là d'ici 2100, à condition qu'on maintienne à 2% le réchauffement climatique d'ici là. Si la machine climatique s'emballe à plus 3 degrés, plus 4 degrés, alors certaines côtes verront l'eau monter de 1 mètre. Assez pour grignoter les terres, inonder les zones habitées. Enfin, si on relargue plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'océan réagit encore, s'acidifie et tous les organismes qui s'y trouvent sont impactés.
Et quelles sont les conséquences à attendre?
D'abord, dit le rapport, dont seule l'agence France Presse a vu une version de travail, 280 millions de personnes déplacées. Ensuite, plus de cyclones et donc des mégalopoles côtières gravement impactées, New York, Miami, mais aussi Dhaka au Bangladesh et bien sûr les îles. Les réserves marines alimentaires pourraient décroître de 40%. Le dernier chapitre de ce rapport sera consacré à la gestion des risques, car face à la rapidité de ces changements et à leur force, il va falloir, vous l'avez compris, anticiper et tenter de s'adapter.
On a compris aussi que ce rapport peut encore évoluer, comme le disent les scientifiques que vous avez contactés. Merci Sophie Becherel. La version définitive sera rendue publique après le sommet mondial pour le climat qui est convoqué par Antonio Guterres dans 3 semaines à New York. Le secrétaire général de l'ONU qui envisage d'ailleurs un sommet sur l'Amazonie également, alors que les incendies se multiplient dans la plus grande forêt tropicale du monde. Et l'exécutif ici en France pendant ce temps sur ce sujet? Eh bien, Édouard Philippe était à Roubaix aujourd'hui sur le thème zéro déchet, zéro gaspille. Ça tombe bien, l'occasion d'assurer que le virage vert du gouvernement n'a rien de récent et de répondre à ceux qui laissent entendre le contraire.
Écoutez, ils ont parfaitement le droit de dire ce qu'ils veulent. J'observe qu'il y a quelques temps, on nous disait qu'on ne faisait pas assez. Et maintenant, j'entends qu'ils disent qu'on en fait trop. Aucun camp, aucune formation politique, aucun parti n'a un privilège ou une exclusivité sur aucun sujet. Je pense que raisonner comme ça, c'est souvent très appauvrissant, intellectuellement et politiquement. Et donc voilà, nous avons fait le choix, le gouvernement, la majorité, a fait le choix de s'engager plus avant. Nous avons fait beaucoup, nous allons continuer. C'est pas un choix de circonstance. Le président de la République, il a placé ce thème au cœur de l'acte 2, il l'a placé au cœur du G7. C'est l'action du gouvernement, c'est l'action de la majorité. Cessons de jeter des anathèmes aux autres. Essayons de vrai pour ce sujet.
Le Premier ministre Édouard Philippe au micro de Laurence Perron.
Il y aura bien un procès dans l'affaire des sondages de l'Élysée.
Un procès pour favoritisme et pour détournement de fonds publics par négligence pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
6 personnes seront jugées, dont l'ancien secrétaire général de la présidence, Claude Guéant.
Claude Guéant, mais aussi l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, ou l'un de ses conseillers, Patrick Buisson. Tout est parti d'un rapport de la Cour des comptes en 2009. Elle se penche sur les frais de communication de l'Élysée. Et ses conclusions amènent l'association Anticor à porter plainte. Jérôme Carcintier est l'avocat de l'organisation.
Le contrat n'a pas respecté le code des marchés publics, les commandes de sondage sont ahurissantes, on paye deux fois la même chose, il y a une liberté totale qui est donnée aux co-contractants, et donc Anticor dépose plainte, et on s'aperçoit que ce co-contractant est en réalité Patrick Buisson à titre personnel, mais également en sa qualité de représentant de la société Publifac, qui va effectivement facturer l'Élysée à l'époque.
Autrement dit, l'enquête montre que la société de Patrick Buisson commande plus de 200 sondages sur des sujets variés, puis les revend à chaque fois à l'Élysée, avec jusqu'à 70% de marge, sans appel d'offres, avec l'accord, voire à l'initiative de l'entourage du président. Les mises en examen, eux, parlent de tradition. La règle de commande publique ne vaudrait pas pour l'Élysée. Réponse du parquet national financier, tradition peut-être, mais à la légitimité incertaine. Pas encore de date de procès. Procès dont Anticor regrette qu'il se déroule sans Nicolas Sarkozy, immunité oblige. Pour l'association, c'est bien l'ancien chef de l'État qui est à l'initiative de ce système.
Nicolas Sarkozy, merci. Ariane Grissel, qui était aujourd'hui à l'université d'été du MEDEF, invité à s'exprimer devant les patrons. Il en profite pour redire qu'il n'a plus d'ambition électorale, Maxence Lambrecq, mais il n'aide pas pour autant les Républicains à sortir de la crise.
Ras-le-bol de le voir toujours sur le devant de la scène. Un député LR fulmine en privé. Il ne supporte plus le Sarko-show, ses leçons de géopolitique et tous ses bons points distribués à Emmanuel Macron.
Je crois, comme le président Macron, au multilatéralisme. Et moi, j'ai approuvé la visite de l'invitation qui a été faite par le président Macron au président Poutine.
À aucun moment, Nicolas Sarkozy n'attaque le chef de l'État devant le patronat, ancien vivier de l'électorat LR. L'ex-président prend même sa défense dans la crise des Gilets jaunes.
Plus personne n'a le pouvoir de faire. C'est-à-dire, dès que quelqu'un veut faire quelque chose, la totalité se mobilise contre lui.
Et pour rien arranger, Nicolas Sarkozy botte en touche. Quand on l'interroge sur la crise climatique, il préfère parler immigration.
Des dérèglements climatiques, le monde en a connu. Mais un choc démographique comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Donc je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir.
Il aime Macron et nous enferme sur l'immigration, peste un élu présent. L'ancienne idole de la droite agace donc de plus en plus ses anciens amis.
Ils avaient déployé une frontière symbolique au col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes au printemps 2018, puis intercepté des migrants. 3 responsables de Génération Identitaire écopent de 6 mois de prison ferme. L'association d'extrême droite est aussi condamnée à 75 000 euros d'amende. Son avocat annonce qu'elle fera appel. Cette fois, c'est donc une certitude, je vous le disais en titre, ce sont les notaires qui l'affirment. Le prix moyen du mètre carré à Paris est maintenant à 5 chiffres. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
10 190 euros exactement.
Eh oui, le seuil haut combien psychologique des 10 000 euros du mètre carré est franchi à Paris. La Chambre des notaires l'officialisera en présentant ses chiffres la semaine prochaine. C'est le résultat d'une flambée constante, atypique, qui agite le marché immobilier parisien depuis de nombreuses années. Les prix ont augmenté de 66% en 10 ans, que ce soit dans les quartiers cossus, dans le centre, 6e et 7e arrondissement, que dans les quartiers plus populaires, dans les 18e ou 19e arrondissements. On estime aujourd'hui qu'il faut 31 ans de revenus en moyenne pour s'offrir un logement de 100 mètres carrés à Paris. Ailleurs en France, il suffit là aussi en moyenne de 7 ans. Une inflation qui devrait encore se poursuivre sur fond de taux d'intérêt bas et de demandes très supérieures à l'offre de logements dans la capitale, notamment à cause du Brexit et des cadres qui quittent Londres, tirant encore un peu plus les prix parisiens vers le haut.
Y a-t-il un lien avec ce qui précède? Merci Fabien Cazot. Peut-être bien Paris se vide de ses élèves. 1400 enfants de moins à la rentrée lundi prochain, d'après l'adjoint au maire chargé de l'éducation. Les Bretons, eux, plutôt favorables au rattachement de la Loire-Atlantique à la région. 47% sont pour, 31% contre. Sondage publié dans le Télégramme. La plupart des personnes interrogées souhaitent aussi une consultation de ce sujet d'une Bretagne à 5 départements. Autre consultation, la procédure de référendum sur la privatisation fédération d'ADP qui avance. 713 000 signatures de soutien enregistrées par le Conseil constitutionnel depuis la mi-juin. C'est 15% du total nécessaire. Il en faudra un peu plus de 4 700 000 d'ici le mois de mars prochain pour valider ce référendum d'initiative partagée.
Il est 19h10 sur France Inter. Sébastien, on prend les mêmes ou presque et on recommence en Italie.
Oui, Giuseppe Conte, président du Conseil sortant, qui doit former un nouveau gouvernement de coalition, mais cette fois entre les anti-systèmes du mouvement 5 étoiles et les sociaux-démocrates. Il promet un nouvel humanisme et une Italie plus juste. Et dans le même temps, l'évincé Salvini, sorti par la porte, revient par la fenêtre. Le chef de la Ligue a fait chuter le premier gouvernement populiste du pays. Il revient en fer de lance de l'opposition Isabelle Laberry et il appelle à manifester à Rome en octobre.
Il ne peut pas accepter d'être hors-jeu, Matteo Salvini. Alors cet après-midi, dans l'une de ses vidéos live qu'il aime tourner sur les réseaux sociaux, il se montre combatif, tout sourire, devant un grand ciel bleu.
Buongiorno, 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 amici, amici.
Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, dit-il. Vous croyez que j'ai peur d'être dans l'opposition quelques mois? Je ne laisserai jamais tomber.
Mai.
Jamais.
Mai.
Jamais.
Dopo qualche minuto.
Le leader populiste parie sur un effondrement du prochain gouvernement et veut croire à de nouvelles élections. Il sort le carton rouge, parle de vol de la démocratie, de gouvernement contre nature et de dirigeants affidés à Bruxelles. Il est vrai que l'exécutif européen ne cache pas son soulagement à voir l'eurosceptique Salvini quitter le terrain. Ce matin, Jean-Claude Juncker a même envoyé un message de soutien à Giuseppe Conte alors qu'il commençait à peine ses consultations. L'Italie joue un rôle central dans la famille européenne, a dit le président de la Commission. Nous comptons sur vous. Le patron de la Ligue, lui, a déjà lancé sa contre-attaque. Un grand rassemblement à Rome le 19 octobre, une journée de la fierté italienne. Demain, il ne prendra pas la peine d'accompagner les délégués de son parti pour ne pas avoir à croiser le nouveau chef de gouvernement.
Grazie.
Turin, Isabelle Laberry, France Inter.
Grazie, grazie.
Quand Brigitte Macron répond indirectement aux commentaires plus que désobligeants du président brésilien Jair Bolsonaro à son encontre, c'était tout à l'heure dans le Pas-de-Calais à Azincourt au micro de Mathieu Darrier de France Bleu Nord.
Je voulais simplement dire deux mots aux Brésiliens et aux Brésiliennes. En portugais, ça va pas être terrible, mais je vais le dire quand même, c'est muito obrigada. C'est un très, très grand merci pour tous ceux qui se sont engagés. Les temps changent. Il y a ceux qui sont dans le train du changement. Les femmes sont là, avec vous, comme vous. Vous l'avez quasiment tous compris, messieurs. Pas tout le monde. Certains sont sur le quai, mais je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder à monter dans le train.
La première dame qui a aussi dit qu'elle avait été très touchée par les soutiens des Brésiliens tout à l'heure. Donc, dans le Pas-de-Calais, merci à Mathieu Darrier pour cet envoi express. Un demi-siècle de conflit, à peine 3 ans de paix et, de nouveau, la lutte armée en Colombie. L'ancien numéro 2 des FARC annonce qu'il reprend la guérilla avec d'autres rebelles. Il dénonce la trahison par Bogota des accords de la Havane. 7000 combattants avaient rendu les armes à l'époque. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov peut être bientôt libéré de Russie. Il a été transféré de son camp du Grand Nord russe vers une prison de Moscou aujourd'hui, Claude Brouillot, et il pourrait profiter d'un échange de prisonniers avec Kiev.
Le transfert d'Oleg Sentsov à la prison moscovite de Lefortovo n'est pas commenté officiellement, mais cette décision est à mettre en parallèle avec la libération hier par Kiev du journaliste ukraino-russe Kirilo Vyshinsky, réclamé depuis 1 an et demi par Moscou. Ce geste d'ouverture des Ukrainiens vers la Russie ressemble au début d'un processus d'échange de prisonniers évoqué par Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, lors de leur conversation téléphonique du mois dernier. Les observateurs neutres ici estiment que dans ce contexte, du changement de pouvoir en Ukraine et de la nécessité pour la Russie de faire un geste vis-à-vis des Occidentaux, il ne peut s'agir alors d'un simple échange de prisonniers. À partir de là, le retour d'Oleg Sentsov à Moscou s'intègre fort probablement dans ce processus. Cet échange, qui s'accompagnerait évidemment d'un retour conséquent de prisonniers d'origine russe dans leur pays, s'il se confirme, marquerait certainement le premier succès diplomatique du jeune président Zelensky, appuyé dans ses démarches par la diplomatie française et notamment la volonté d'Emmanuel Macron de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Il était Harpagon pendant 20 ans à la Comédie Française, mais il a aussi joué pour Claude Lelouch ou Bertrand Tavernier. Michel Aumont est donc mort hier, on ne l'a appris qu'aujourd'hui. Il avait 82 ans. Bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir Sébastien.
L'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, le résume bien. C'était un très grand comédien, dit-il, de théâtre et de cinéma, classique et moderne à la fois.
Michel Aumont, il avait une voix caractéristique, hein, grave, modulée, une voix qui fit donc merveille au théâtre, à la Comédie Française où il était entré à 18 ans. Il sera un harpagon sans caricature, au ton d'une modernité qui restera dans les annales.
Il y a encore une chose qui m'inquiète, la fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas.
Et le cinéma ne laissera pas passer son talent. Michel Deville l'engage pour La Femme en Bleu. Et Michel Aumont devient incontournable. Il tourne avec Chabrol, Zidi, Weber, Lautner, Haneau. Il sera avocat, homme de loi, commissaire, comme dans Ripoux contre Ripoux. Il sera dans tous les succès. Le Placard, L'Emmerdeur, Versailles Rive Droite, Palais Royal, Les Invités de mon père, Les Cinq Doigts de la Main. Il excellait à varier les rôles. Un talent pour lequel, en 99, en recevant un des quatre Molières de sa carrière, il rendait hommage à sa mère, la comédienne Hélène Gerbert.
Elle a été vraiment estimée, aimée et admirée par beaucoup de gens, même si elle n'est pas devenue une vedette. C'était, je crois, une remarquable comédienne et je crois qu'elle a bien mérité son Molière.
Michel Aumont, c'était un ton élégant, détaché et plein d'humour. Il avait l'aisance des grands, dit ce soir Franck Riester, le ministre de la Culture.
Merci Jacqueline Petrov. Michel Aumont, mort donc hier à 82 ans.
Une réunion jeudi prochain contre l'homophobie dans le foot.
Initiative de la Ligue professionnelle après les nouveaux chants et banderoles hier soir pendant Nice-Marseille. Match interrompu, 12 minutes par l'arbitre. Tolérance zéro, dit aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Quelle que soit la forme de contestation qu'il peut avoir et de discrimination dans un stade, il n'y a pas de place pour ça. Après, les décisions, c'est aux instances de les prendre, de faire en sorte qu'elles soient le plus appropriées. Ça demande certainement une réflexion très approfondie, parce que c'est possible qu'il y ait une certaine forme de provocation aussi à vouloir... mettre une banderole, le match est arrêté, mais il n'y a pas de place de toute façon, donc il faut être intransigeant par rapport à ce type d'événement.
Voilà Didier Deschamps qui convoque pour la première fois en bleu le Lillois Jonathan Ikoné pour les qualifications à l'Euro contre l'Albanie et l'Andorre. L'autre actualité du ballon rond ce soir, c'est le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir.
Alors tirage facile ou pas pour les trois clubs français?
Eh bien écoutez, le Paris Saint-Germain prend du gros en poule A, le Real Madrid pour le PSG en phase de poule, le troisième de Liga, 13 Ligue des Champions au compteur, entraîné bien sûr par Zizou. Dans cette poule A, on retrouvera aussi Galatasaray, les Turcs et les Belges de Bruges. Pour la qualification, le Paris Saint-Germain a quand même de grandes chances. L'Olympique Lyonnais, de son côté, a un tirage plutôt favorable, on va dire. Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica et Leipzig pour le club allemand, de Leipzig pour l'OL. Et enfin, Lille, qui a mérité, bien sûr, cette qualification en Ligue des Champions, en terminant deuxième du championnat. Et bien, une belle poule, la poule H, avec Chelsea, les Anglais de Chelsea, l'Ajax d'Amsterdam et enfin Valence. Les premiers matchs de poule sont prévus le 17 et 18 septembre prochain.
Et le dossier Neymar, dans tout la planète foot parle, on en est où puisque les présidents du PSG et du Barça sont en ce moment à Monaco.
Oui, on imagine mal les présidents des deux clubs ne pas avoir passé un petit peu de temps ensemble et discuter, tailler le bout de gras peut-être entre Nasser Al-Khelaïfi pour le PSG et Josep Bartomeu de Barcelone. Ils sont à Monaco, vous l'avez souligné. On sent que en tout cas tout se joue à fleur et moucheté dans ce dossier. Imaginez aujourd'hui, cet après-midi, vers 14h, les Italiens de Sky Italia ont déclenché les hostilités en annonçant que c'est bon, un accord avait été fait. Et puis de l'autre côté, eh bien ce sont les media managers des clubs qui ont appelé les médias pour dire non, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé, il ne se passe rien. Bref, c'est très très tendu. Il reste 4 jours. On rappelle juste la position du Paris Saint-Germain sur cette affaire. Le PSG veut du cash, 200 millions d'euros ou 130 millions d'euros avec joueurs en prime. En tout cas, le mercato se termine le 2 septembre à 23h59.
Et Neymar était présent cet après-midi à l'entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye, mais il n'est pas dans la liste pour le match de Ligue 1 demain à Metz. Merci Bruno. Bruno Salomon, pour finir, 3 autres médailles françaises au Mondiaux de judo à Tokyo. L'or pour Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kilos, c'est son premier titre de championne du monde. Le bronze pour Margot Pinault sur le même podium et puis le bronze aussi chez les hommes pour Axel Clerget, c'est en moins de 90 kilos, vous savez tout.
Et comme ça c'est dit, Sébastien Paour, merci beaucoup. À demain bien sûr, la suite du 18-20, c'est le téléphone sonne juste après la météo d'Élodie Calac. Une belle journée d'été demain encore Élodie.
Oui, beaucoup de soleil partout dès le matin, juste quelques nuages bas vers la côte landaise et le Pays Basque. De la Bretagne vers la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, un soleil légèrement voilé. Ce petit voile nuageux, il glissera vers Poitou-Charentes, la région parisienne. Les Ardennes l'après-midi sans gâcher l'impression de beau temps. Et puis on aura des nuages aussi qui se développeront à proximité du relief sous l'effet de la chaleur. Donc on ne sera pas à l'abri d'une petite averse sur les Vosges, le Massif central, et puis des orages sur les Pyrénées, la Corse et aussi du Jura vers les Alpes et l'intérieur de la Provence.
Et sinon il fera encore chaud.
Ça montera bien l'après-midi, 23 degrés à Cherbourg, 28 à Paris, 29 à Nantes, 31 à Nancy et à Lyon, 33 degrés à Nevers, Limoges ou Marseille, jusqu'à 37 degrés à Nîmes. Et puis le matin, ça sera contrasté, parfois un petit peu frais au nord, mais trop élevé au sud. 9 degrés seulement à Cherbourg, 10 à Reims et à Brest, contre 19 degrés attendus à Lyon, à Bordeaux et 23 à Nice ou à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.